Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Marc Golleridon et Lucas Lazo, réalisée par Thomas Jost et mise en onde ce matin par Thomas Gomard. Nouvelle série donc consacrée au laboratoire politique de l'Europe. On a choisi de nous pencher ce matin sur cette semaine, sur quatre pays d'Europe particulièrement pertinents, ceux qu'ils sont le théâtre d'innovation politique. On parlera de la Hongrie qui voudrait bien réinventer le modèle de la droite chrétienne. On parlera de l'Autriche où le jeune chancelier s'essaye à l'alliance avec les Verts après s'être associé à l'extrême droite. On parlera de la Grande-Bretagne qui va devoir faire face à des défis immenses pour conserver son unité malgré son divorce avec l'Union européenne. Mais pour commencer, place à l'Italie, laboratoire des populismes en Europe, d'un populisme à l'autre. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Lasciatemi dire che per me è un'emozione. C'est passionnant pour moi qu'après 70 ans, il y a eu pour la première fois un vrai match en Émilie-Romagne. Depuis qu'il y a des élections en Émilie-Romagne, les commentaires sur les résultats électoraux ne duraient jamais plus de 3 minutes, car le match était joué d'avance. Le fait que la Ligue puisse viser la première place du premier parti à la fois en Émilie-Romagne et en Calabre, pour quelqu'un comme moi, qui a la carte de membre de la Ligue depuis que j'ai 17 ans, c'est une émotion incroyable. Je suis heureux et fier d'avoir réconcilié tant de gens avec la politique.
Je suis ici pour démissionner en tant que chef politique du mouvement 5 étoiles, afin de faciliter le chemin vers nos états généraux en mars. Pour ma part, je continuerai à servir les Italiens et le mouvement 5 étoiles et je ferai de mon mieux. À partir de ce soir, mes fonctions de chef politique seront transférées conformément au règlement à Vito Crimi, membre senior du comité de garantie.
Matteo Salvini, ancien ministre de l'Intérieur, et Luigi Di Maio, actuel ministre des Affaires étrangères, deux figures d'un populisme italien aux multiples visages et dont l'association dans une même coalition avait beaucoup étonné tant leur programme était incompatible. Ces dernières années, en effet, les Italiens ont vu se succéder nombre de forces politiques qu'on pourrait qualifier de populistes, au sens où ces leaders revendiquent un rapport supposément plus direct au peuple, faisant fi des institutions au nom de l'intérêt de ce dernier. De ce point de vue, la coalition entre Matteo Salvini et Luigi Di Maio, chef respectif de la Lega et du mouvement 5 étoiles, était particulièrement significative, même si l'ancien ministre de l'Intérieur avait fini par faire voler en éclats, espérant provoquer l'organisation d'élections anticipées dont il serait sorti gagnant selon les sondages d'opinion. Alors si aujourd'hui Matteo Salvini se retrouve, pour l'heure en tout cas, à la marge du pouvoir, le chef de file de l'extrême droite italienne n'a pas dit son dernier mot. Mais il devra également compter sur d'autres figures qui montent, y compris à sa droite, avec par exemple Giorgia Meloni, la tête d'affiche de Fratelli d'Italia, qui ne cesse de progresser dans les sondages aux dépens de la Ligue. Alors comment comprendre que l'Italie soit ce théâtre sur lequel se joue sans relâche l'éternel retour du populisme? Quelles en ont été les différentes formes au cours du temps? Mouvement 5 étoiles, les gars, berlusconisme aussi. Comment se sont-ils combinés les uns avec les autres et que nous réserve l'avenir? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Marc Lazare. Bonjour Marc Lazare.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, sociologue, professeur à Sciences Po et directeur du groupe de recherche pluridisciplinaire sur l'Italie contemporaine et vous avez signé récemment avec Ilvo Diamanti Peuplocratie aux éditions Gallimard. À nos côtés également Giuliano D'Ampoli. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste, essayiste, président d'un think tank Volta. Et puis vous aviez signé, vous c'était l'année dernière, Les ingénieurs du chaos chez Jean-Claude Lattès. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Alors, là encore, on est un peu rattrapé par l'actualité, si je puis dire, Marc Lazare et Giuliano D'Ampoli, parce que le coronavirus fait l'actualité partout. Et il fait l'actualité chez nous en France par rapport à la situation du côté de l'Italie, parce que évidemment c'est le pays le plus touché en Europe, l'Italie. Il y a ce matin 15 millions de personnes qui sont confinées dans cette région de Lombardie. Et cette crise sanitaire, elle a aussi des conséquences dans le champ politique, Marc Lazare, notamment parce que, alors on va pas détailler tout cela, mais en gros il faut comprendre que du côté de l'Italie, la question de la santé, elle est gérée par les régions et pas par l'État, et donc ça donne évidemment là en ce moment des frictions très fortes, des oppositions très fortes entre Conseil italien et les régions, notamment les régions qui sont tenues par la Lega de Matteo Salvini. Donc on voit déjà qu'au-delà de l'enjeu sanitaire qui est évidemment très fort, on en a parlé ensemble avant de prendre cette antenne, mais les enjeux politiques sont d'ores et déjà bel et bien là.
Oui, ils ont été d'ailleurs présents immédiatement, puisque lorsqu'il y a eu les premiers cas en Italie, le gouvernement italien a pris un certain nombre de mesures que nous n'avons pas prises en France. Par exemple, de suspendre les vols entre l'Italie et la Chine, entre la Chine et l'Italie, ce qui s'est révélé être une erreur, mais il y a beaucoup d'improvisation, comme nous improvisons beaucoup en France, puisque des passagers venant de la Chine sont passés par le reste de l'Europe et ensuite sont arrivés en Italie. Il y a déjà eu tout de suite un certain nombre de mesures, des contrôles, par exemple, dans les aéroports, avec des tests qui étaient faits sur les voyageurs. Donc ça a été une première mesure. Et immédiatement, il y a eu une dimension politique, puisque Matteo Salvini, donc le responsable chef de la Ligue, a commencé à critiquer le gouvernement, l'a accusé d'être incapable, et surtout a profité de cela, comme Marine Le Pen en France, pour dire que la seule solution, c'était de fermer les frontières, de protéger, comme il a, dans une prise de parole qui a fait le buzz, comme on dit, qui a dit protéger, blinder l'Italie. Et puis, menaçant le gouvernement de porter plainte, et notamment le ministre de la Santé, si jamais un migrant était responsable de transmettre le virus. Et donc, oui, ça a été un enjeu politique immédiat, ça continue de l'être, vous venez de le rappeler. Le gouvernement a pris une décision très importante au cours de ce week-end. Les présidents de région ont tendance à critiquer ce gouvernement. Il faut préciser une chose, que c'est pas simplement les présidents de la région Lombardie et Vénétie, de la Vénétie, qui sont tous les deux dirigés par la Ligue, mais même le président de la région Émilie-Romagne, on entendait Salvini se féliciter de son résultat, mais il a échoué à prendre l'Émilie-Romagne.
On y reviendra, évidemment.
Mais le président de l'Émilie-Romagne, région donc contrôlée par le Parti démocrate actuellement au pouvoir, de centre-gauche, a dit qu'il l'accepter les mesures, mais qui aurait dû avoir plus de concertation avec les régions. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a la dimension populiste d'un côté, mais il y a une autre dimension qui est le rapport centre-région.
Giuliano D'Ampoli, que vous inspire cette situation où, on le voit, cette rhétorique précisément que porte l'extrême droite de fermeture des frontières, avec l'arrivée du coronavirus, elle risque d'être encore, de trouver un écho encore plus fort dans l'opinion italienne, on s'en doute. Oui, il faut le craindre.
Oui, mais quand vous avez décidé de consacrer cette émission à l'Italie comme laboratoire politique, vous ne pensiez peut-être pas que cette expression aurait trouvé une application aussi littérale. C'est vrai que malheureusement, ce que nous sommes en train de vivre en Italie, c'est encore une fois un test qui, à mon avis, a probablement une valeur un peu plus large, c'est-à-dire comment est-ce que une démocratie affronte un phénomène comme celui d'une potentielle épidémie comme celle du coronavirus. On a vu comment la Chine et donc un système autoritaire affrontait la question avec des mesures draconiennes, mais qui semblent quand même avoir produit un effet positif. Et aujourd'hui, on voit que l'Italie, qui a malheureusement des chiffres en termes de contaminés et de morts qui sont qui peuvent tout à fait être confrontés à ceux de la Chine du début de l'épidémie, et donc dans une situation semblable, on voit comment ce système est en train d'essayer d'affronter le phénomène. Et on voit malheureusement énormément de flottements. Donc, encore une fois, la vitalité démocratique italienne qui est indéniable, aujourd'hui, au cours des dernières semaines, elle a produit des phénomènes assez extraordinaires. Marc Lazare le rappelait, le gouvernement a pris dès le début des mesures assez sévères pour essayer de d'endiguer la diffusion de la maladie.
Mais alors, justement, pas tellement de flottement.
Mais non,
15 millions de personnes confinées.
En réalité, non, parce qu'il y a eu cette première vague de mesures. Après, il y a eu énormément de voix qui se sont élevées, y compris dans la majorité, beaucoup dans la position aussi, les gouverneurs du Nord, par exemple, à un certain moment, qui ont dit « Non, c'est trop, ça va tuer l'économie, ça va nous faire du mal, évidemment, ça va décourager les touristes, et en plus, de toute façon, ça va paralyser l'économie. » Donc, il y a eu des initiatives politiques de sens contraire. Même le secrétaire du Parti démocrate, il a été à Milan prendre un apéritif publiquement en disant « La vie continue ». Hein. Et, sauf
résultat,
que.
Il est contaminé.
Résultat, ce week-end, le secrétaire du Parti démocrate est contaminé. Il est positif au virus. Et donc, on est revenu. Bon, c'est pas. c'est pas Zingaretti, justement, le secrétaire lui-même. Mais disons, on est revenu. Ce week-end, justement, vendredi soir, là aussi avec une histoire extraordinaire de décret qui a été diffusé, qui est sorti, il y a eu, bon, et donc il y a eu des mots d'ordre et puis des annulations, etc. Bon, et donc on est venu aujourd'hui à une politique beaucoup plus sévère, qui est cette création d'une zone orange, c'est pas une zone rouge, c'est-à-dire c'est une zone qui devrait être plus ou moins fermé, mais l'effet a été que immédiatement tous les gens qui étaient là à Milan, les gens, les ressortissants surtout des régions du sud, etc., ils ont pris leur voiture, ils ont monté sur les trains et les bus et ils sont partis. Et donc il y a eu l'effet opposé, c'est-à-dire une diaspora en provenance des zones, disons à risque, dans tout le pays. Bon, c'est un cas italien. Encore une fois, le système italien est particulièrement mal équipé pour mettre des règles et pour imposer une discipline, hein, parce que disons que ce n'est pas notre qualité dominante, celle de suivre une discipline ou des règles. Mais le problème posé est quand même plus vaste. Comment est-ce qu'une démocratie affronte une émergence sociale?
Marc Lazare, peut-être encore une réaction, et puis ensuite on reviendra justement sur la défaite de la Lega dans les élections régionales en Émilie-Romagne.
Non, effectivement, il y a une question sanitaire particulièrement préoccupante pour l'Italie et qu'on ne peut pas, je veux dire, isoler. C'est-à-dire que, évidemment, on risque d'être confronté à des choses comparables. Je pense qu'il faut dissiper, si jamais vos auditeurs ont encore cette image ou ce cliché ou ce stéréotype en tête, l'Italie du Nord a un système médical particulièrement avancé. Et justement, la préoccupation du gouvernement, c'est que cette épidémie se répande dans des zones où, au contraire, notamment dans le sud, hein, et certainement dans le sud, le système sanitaire n'est pas à la hauteur. Ça, c'est la grande inquiétude. Et puis, il faut bien comprendre que le gouvernement actuel, et ça, ça a un lien avec le thème politique de votre émission et de cette semaine, si j'ai bien compris, c'est que le gouvernement Giuseppe Conte joue sa crédibilité.
Il joue son avenir, là?
Ah bah oui, parce que si l'épidémie se répand, s'il y a des milliers de morts, évidemment, les forces de l'opposition vont l'attaquer, vont le critiquer, et même aux yeux de l'opinion, qui pour le moment semble adhérer plutôt aux mesures du gouvernement, risque de se retourner contre le gouvernement et le rendre responsable. Il joue sa crédibilité en interne, sachant que la Ligue, effectivement, a des positions très dures, qu'en revanche, on parlera de Fratelli d'Italia, Madame Meloni a une attitude beaucoup plus tempérée en disant qu'elle était prête à collaborer avec le gouvernement, ce qui a surpris Matteo Salvini et les Italiens. Et puis ce gouvernement joue sa crédibilité au niveau de l'Union européenne et au niveau international. Ça, c'est vraiment très important parce qu'évidemment, tous les stéréotypes sur l'Italie, Giuliano disait c'est un pays peu discipliné, c'est un pays où beaucoup de gens s'interrogent sur la qualité du système sanitaire. Donc il y a une crédibilité de l'Italie au niveau de l'Union européenne. Et je tiens à dire que justement, le gouvernement a un argument fort en disant que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, lui donne crédit de sa politique. Elle félicite le gouvernement italien de cette politique. Donc, si Giuseppe Conte insiste beaucoup sur l'avis favorable donné par l'OMS, c'est parce qu'il sait que sa crédibilité n'est pas simplement interne à la politique italienne, mais qu'elle est par rapport au monde entier, notamment par rapport à l'Union européenne.
Rappelons qu'il a réussi, il est parvenu à rester à la tête du Conseil européen à la faveur d'une transformation de la coalition. On est passé de la Lega et Mouvement 5 étoiles à Mouvement 5 étoiles et le Parti démocratique. Giuliano D'Ampoli, si on revient justement il y a quelques semaines avec ces élections régionales, parce que 2020 c'est une année d'élections régionales pour l'Italie, il va y en avoir toute l'année, et on a commencé avec la Calabre et l'Émilie-Romagne, et Salvini en avait fait vraiment le point de départ de sa reconquête politique. Et ça s'est pas exactement passé comme il l'aurait voulu, puisque en Émilie-Romagne, le candidat de la Lega ne l'a pas emporté. Comment vous interprétez tout cela? Est-ce que c'est juste un petit accident de parcours, ou est-ce que en réalité ça annonce peut-être une traversée du désert pour un Salvini dont on pensait qu'il allait très vite revenir au pouvoir, Giuliano D'Ampoli?
Non, malheureusement, je ne crois pas. Je pense que ça a été un peu une illusion optique, la défaite de Salvini en Émilie-Romagne, parce que c'était, bon, c'était lui-même qui avait fait monter les enchères, parce qu'il a vu là, en effet, une opportunité politique, mais ça aurait été tout à fait extraordinaire qu'il gagne en Émilie-Romagne, parce que d'abord, l'élection, là, s'est jouée quand même beaucoup sur le caractère local. Hein. Il y avait une bonne administration en place, plutôt populaire, qui d'ailleurs a fait toute sa campagne en affichant jamais des symboles de parti. Hein. Le président en charge de l'Émilie-Romagne, qui est évidemment un représentant du Parti démocrate, il a fait sa campagne politique que sur le local, sans jamais afficher de symbole politique même du Parti démocrate même, et il a réussi, en effet, il y a eu après cette mobilisation, on parlera peut-être à un certain moment du phénomène nouveau, parce que le laboratoire italien n'est pas que pour le pire, il y a des exemples intéressants et positifs aussi, comme ce cas de la mobilisation des Sardines, donc ce mouvement de jeunes qui est né surtout sur les réseaux sociaux, mais qui après s'est manifesté dans l'espace public et dans les places, et qui a contribué quand même à mobiliser des gens. La participation au vote a été extraordinairement élevée dans les élections en Émilie-Romagne. Mais encore une fois, je crois que malheureusement, d'ailleurs, Salvini avait aussi choisi une très mauvaise candidate, une candidate très faible.
Mais parce qu'il avait prévu de faire campagne à sa place, en gros.
Voilà, peut-être. D'ailleurs, il a répété. Maintenant, il vient de désigner la candidate en Toscane, qui est une autre région sensible dans laquelle on votera à nouveau. Et encore, il a choisi une candidate faible. Donc, il y a peut-être une stratégie.
Marc Lazare, et puis après, effectivement, il y a beaucoup de choses à évoquer. Vous avez parlé du mouvement des Sardines, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle aussi d'une nouvelle figure, enfin nouvelle, pas si nouvelle, mais en tout cas qui est de plus en plus importante dans ce paysage politique, c'est Giorgia Meloni. Marc Lazare, d'abord.
Non, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Giuliano. Da Empoli, je rajouterai quand même un point qui est important, c'est la progression de la Ligue en Émilie-Romagne. Il a perdu, Matteo Salvini a perdu son pari, et effectivement, il a fait certainement une erreur politique en personnalisant tout, en annonçant que ce serait la victoire, bon, et donc il en a payé un peu le prix. Mais quand vous regardez les résultats électoraux, la Ligue a fait une progression spectaculaire, faut bien comprendre. Et quand on regarde un peu plus en détail, il y a un très bon institut de recherche à Bologne, s'appelle l'Institut Cataneo, qui a fait des études très très fines sur le plan de l'électorat. On voit très bien que, et ça, on retrouve ça quasiment dans tous les populismes européens, c'est un vote qui progresse dans les petites communes, qui progresse dans les zones dites rurales, dans les zones périphériques, alors que le vote dans les centres-villes, en particulier à Bologne par exemple, est un vote très favorable au Parti démocrate. Donc il a continué de s'implanter. Il faut jamais oublier que par exemple la Ligue maintenant a conquis la ville de Ferrare, qui était une ville historiquement à gauche, et à Ferrare, quand vous regardez le vote pour la Ligue, l'électorat a encore progressé. Donc oui, il a perdu son pari, il a certainement commis une erreur, il a commis beaucoup d'erreurs au cours de ces derniers temps, beaucoup d'erreurs politiques, mais son parti n'a cessé de croître, y compris dans cette région. Il faut rappeler quand même aux éditeurs que c'était une région à gauche socialiste, avant le fascisme, communiste depuis la libération, et où là, la Ligue progresse, incontestablement.
Il n'empêche que, dans le paysage politique italien, la force politique qui progresse le plus ces derniers mois, c'est Fratelli d'Italia, qui est menée par Giorgia Meloni. On l'écoute.
Je m'adresse à vous, car maintenant, il parle carrément de retirer les mentions père et mère des documents officiels. Parce que pour eux, la famille est un ennemi. L'identité nationale est un ennemi. L'identité de genre est un ennemi. Tout ce qui nous définit est un ennemi. Le jeu de la pensée unique veut nous enlever tout ce que nous sommes. Et quand nous n'aurons plus d'identité, nous n'aurons plus de racines. Nous serons privés de conscience et nous serons seront incapables de défendre nos droits. Ils veulent que nous soyons parents 1, parents 2. Ils veulent le genre LGBT, la citoyenneté X. Tout cela, ce sont des codes. Et nous ne sommes pas des codes. Nous sommes des personnes. Et nous défendrons notre identité. Moi, je suis Georgia. Je suis une femme. Je suis mère. Je suis italienne. Je suis chrétienne. Et vous ne me l'enlèverez pas.
Voilà, Giorgia Meloni, quand on regarde les sondages d'opinion, effectivement, on mesure Fratelli d'Italia à 10 points, 11 points, 12 points. C'est la plus forte progression du paysage politique italien. Giuliano D'Ampoli, c'est ça le nouveau visage du populisme, du nouveau populisme d'extrême droite. C'est au fond Giorgia Meloni qui déborde Salvini par sa droite. Et puis vous allez nous expliquer les différences justement entre les deux.
C'est certainement un des deux nouveaux visages de l'extrême droite, justement, parce que j'ai quand même plutôt tendance à penser que Matteo Salvini doit être rangé à l'extrême droite aussi, hein, même s'il essaye de temps en temps, et même s'il y aura peut-être une évolution, il va être forcé d'évoluer un peu vers le centre. Mais ce qui est quand même assez surprenant en Italie, c'est que la droite et l'extrême droite a progressé en se décomplexant et non pas en se masquant, si on veut, c'est-à-dire, et ça c'est vraiment le passage de Salvini a laissé au gouvernement, hein. Je crois quand même que ça a été un effet de son expérience au gouvernement pendant un an, où les paroles d'ordre, les mots d'ordre, le langage, les arguments, les slogans de l'extrême droite sont rentrés dans le mainstream politique. Hein. Ils ont été injectés dans le mainstream politique et ils sont aujourd'hui tout à fait acceptables, tolérés dans le débat politique normal. Donc aujourd'hui et donc d'ailleurs dans le débat même dans la rue, si vous voulez. C'est-à-dire aujourd'hui, en Italie, vous pouvez utiliser des termes, des expressions pratiquement ouvertement racistes sans qu'il y ait un stigme associé à ça. Il y a une partie de la presse d'ailleurs qui le fait aussi, une partie du personnel politique. Et donc vraiment, il y a eu là un effet... c'est comme si une digue s'était ouverte. Bon, dans l'extrait que vous avez passé, Giorgia Meloni parlait de Racine. En effet, la différence entre le mouvement de Giorgia Meloni, donc Fratelli Italia, et la ligue un peu pop quand même de Matteo Salvini, c'est probablement bien ça, c'est-à-dire le mouvement Fratelli Italia a des racines très profondes dans l'extrême droite italienne. Hein. Et c'est substantiellement, disons, l'héritage de ce qui reste du parti fasciste, après du Movimento Sociale de l'après-guerre, et donc elle est l'héritière de cette tradition et de cette histoire. Qui n'est pas l'histoire et la tradition de Matteo Salvini, parce que Matteo Salvini, il était, il a repris un mouvement régionaliste en faillite qui était à 4% quand il est arrivé, et la façon qu'il a eu de reprendre ce mouvement, ça a été de le transformer plutôt dans un algorithme. À mon avis, le modèle de Matteo Salvini, c'est quand même beaucoup Cinque Stelle et aussi le mouvement 5 étoiles italien, dont il a repris quand même la technique de communication et la façon de surfer un peu à droite, à gauche, sur tous les thèmes, sur tout ce qui marche, etc.
Rappelons qu'avant d'être la Ligue, c'était la Ligue du Nord, et donc il y avait effectivement un agenda régionaliste en réalité.
Et même ces jours-ci, en réalité, on a vu Salvini quand même plutôt désorienté. Hein, il a pris plusieurs positions parce qu'il a dit justement, lui aussi, à un certain moment, il a dit on exagère, non, ça va tuer l'économie. Puis il est revenu sur une position plus dure, mais il a fluctué, alors que Giorgia Meloni, elle a eu la position vraiment de la droite, en disant maintenant on fait bloc, hein, on a l'unité de ce pays qui fait face à l'adversité, etc. Donc une position quand même beaucoup plus cohérente.
Marc Lazare.
Alors d'abord, il faudrait peut-être rappeler qui est Giorgia Meloni, parce que c'est une femme qui vient de la périphérie de Rome, qui n'a pas fait spécialement de grandes études, qui est entrée en politique très jeune, dans un mouvement lié à ce qui est l'héritage du fascisme ou du post-fascisme, et c'est un élément à bien comprendre. Elle a été ministre des gouvernements Berlusconi, dans le cadre des gouvernements de coalition qu'avait fait Berlusconi, et là, effectivement, elle est à la tête de cette formation Fratelli d'Italia. C'est intéressant à le rappeler, c'est-à-dire frère d'Italie, donc qui est une évocation de l'hymne national italien. Il faut faire un petit peu de rappel historique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et à la création du Mouvement Social Italien, qui est un parti qui affirme sa continuité avec le fascisme sans se déclarer ouvertement fasciste, parce que sinon un article de la Constitution ferait qu'il aurait été interdit. C'est un parti qui a été très présent dans le sud de l'Italie, qui a été la principale formation d'extrême droite fasciste ou liée au fascisme d'après Seconde Guerre mondiale. Il ne faut jamais oublier que Jean-Marie Le Pen s'est inspiré du mouvement social italien lorsqu'il a créé le Front National. Il y a des rapports très très étroits entre ces deux partis, et que ce parti, dans les années 90, avait connu une évolution autour d'une personnalité qui s'appelle Gianfranco Fini, qui avait essayé de défasciser ce mouvement. Or, Giorgia Meloni revient avant cette période pour renouer justement avec ce qu'avait été cette formation, alors appelons-la post-fasciste, néo-fasciste. C'est compliqué de la caractériser, je vais vous dire pourquoi. Ce qui est très symbolique, c'est son logo, c'est-à-dire la flamme tricolore, qui est aussi la flamme tricolore qui est celle du Front National, puisque le Front National et le Rassemblement National maintenant s'étaient inspirés du mouvement social italien. Donc en adoptant de nouveau ce logo avec la flamme tricolore, c'est pour faire comprendre aux Italiens qui sont nostalgiques de l'ancien mouvement social italien que ce mouvement existe toujours à travers Frères d'Italie. Alors elle a des positions effectivement plus à droite, on l'a bien entendu dans ce discours. Comment caractériser, est-ce que ça veut dire que c'est la progression du fascisme? Là, il faut être quand même prudent. Il y a, disons, d'après moi, une matrice commune, mais comme en France, tout de suite, très souvent, dès qu'on parle de l'Italie, il y a, ça y est, c'est le retour du fascisme. Attention, dans votre extrait d'entretien, elle se réfère au christianisme, ce qui n'était pas le cas du fascisme italien. Elle insiste beaucoup sur cet élément. Elle, par exemple, le Fratelli d'Italia n'utilise pas la violence. Je sais qu'on va parler tout à l'heure de Casapande. Casapande peut recourir à la violence. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'utilisation de la violence comme le fascisme l'avait été dans les années 1920 et encore après la prise du pouvoir par Mussolini. Donc là...
De ce que j'entends, ça pourrait être compatible, tout cela, avec une extrême droite de Matteo Salvini, on pourrait l'imaginer.
Alors, avec la nuance il y a une dernière différence, c'est que dans le fascisme, il y avait la volonté d'engendrer une humanité nouvelle, de façonner une espèce humaine nouvelle. Là, c'est pas le cas, c'est plutôt un discours d'ailleurs de défense conservateur. Le fascisme est révolutionnaire. Tous les historiens du fascisme nous ont fait comprendre que, contrairement à ce qu'on croyait, je pense évidemment à Renzo De Felice, à Emilio Gentile, aux grands historiens du fascisme, ils nous ont fait comprendre que c'était un mouvement de type révolutionnaire qui voulait tout bousculer. Bon, c'est pas le cas de Giorgia Meloni, c'est très intéressant. Elle est plutôt conservatrice. Alors oui, il y a des points communs, incontestablement, avec effectivement une différence fondamentale, c'est que Giorgia Meloni est dans ce courant historique qui valorise la nation. Pour Matteo Salvini, c'est récent. Giorgia Meloni peut faire comprendre qu'elle appartient à un courant politique, une culture politique qui a toujours été celle justement de la prééminence nationale. Ça, je pense que c'est un grand élément de différenciation entre les deux formations. Mais oui, il y a l'anti-immigré, bien évidemment, le racisme ou la xénophobie dont parlait Giuliano se retrouve un peu dans les deux formations. Il y a une compétition, puis surtout, il y a une différence sociologique. Pour le moment, Fratelli d'Italia est beaucoup plus présent dans le centre-sud de l'Italie. Le Latium elle-même, c'est historique en Italie. Une partie, c'est-à-dire de la région autour de Rome, a des accointances historiques avec le fascisme. Une partie du sud, elle a plus de mal à se développer dans le nord, qui reste quand même le bastion fondamental de la Ligue, quand bien même elle est aujourd'hui Ligue et plus Ligue du Nord.
Vous parliez tout à l'heure Giuliano D'Ampoli.
Et puis, pardon, excusez-moi, une dernière différence. Giorgia Meloni est plus étatiste sur le plan économique que Matteo Salvini qui...
Plus libéral.
Plus libéral, ouais. Même s'il fait quelques concessions pour essayer de gagner des votes au Sud.
On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure Giuliano D'Ampoli du mouvement des Sardines, on va y venir tout de suite.
Les populistes de droite s'adressent juste aux tripes des citoyens, avec des slogans qu'on entend aussi aux États-Unis et dans le reste de l'Europe, comme « les Italiens d'abord » ou « nous sommes cernés par l'ennemi ». Ils ont toujours besoin d'une tête de Turc pour véhiculer leurs idées. On essaie d'aborder les mêmes sujets, mais nous on dit que ce sont des thématiques complexes qui nécessitent une politique plus subtile avec des concepts élaborés, pas de simples slogans.
Entendez à l'instant Mathias Santoré, qui est l'une des grandes figures, sinon la grande figure de ce mouvement des sardines, et puis ce chant Bella Ciao qu'on reprenait en chœur sur les places des villes d'Italie. Donc ce mouvement, Giuliano D'Ampoli, qui est né dans la région de Bologne, qui s'est diffusé dans d'autres villes et qui vise au fond à répondre à cette montée en puissance de l'extrême droite et notamment de Salvini. C'est intéressant parce que on voit qu'au fond, à un courant répond à un contre-courant. Qu'est-ce que vous inspire cet anti-salvinisme? Et au fond, est-ce qu'il se suffit à lui-même? Je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce mouvement prenne une forme partitaire, qui s'institutionnalise sur un programme qui serait faire rempart à Salvini?
D'abord, justement, c'est un mouvement qui naît de façon tout petit peu paradoxal parce qu'il naît pour s'opposer aux leaders de l'opposition, donc pas au gouvernement. Non, en général, les mouvements dans les places, etc., ça naît plutôt pour s'opposer au gouvernement. Là, il naît en Émilie-Romagne et il certifie le leadership et en réalité, d'une certaine façon, l'hégémonie politique de Salvini en Italie. Donc, mais cela dit, c'est un mouvement tout à fait intéressant. Dans le choix du symbole déjà, parce que cette idée de sardine, non, qui est une idée, d'abord c'est un plat pauvre, hein, et surtout c'est de cuisine populaire, et puis c'est le nombre de poissons qui vont tous dans la même direction, qui sont dans le courant d'ailleurs, ils ne remontent pas contre courant comme les saumons. Et là, il y a, à mon avis, une certaine intelligence quand même de cette idée des sardines, parce que ils ont deux idées de base. Ce sont deux idées de forme plus que de contenu. La première, c'est on va se réapproprier de l'espace public et donc on va réinvestir les places, on va se retrouver face à face, on va avoir des moments joyeux, populaires dans les bon. Et donc effectivement, ils ont organisé de grosses manifestations d'abord dans la région de l'Émilie et puis dans toute l'Italie, notamment à Rome, même à l'étranger où il y a des étudiants italiens qui ont fait ça. Il y a une diaspora italienne un peu partout et ils ont fait ça à l'étranger aussi. Mais surtout, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est un peu présent dans l'extrait que vous avez passé, c'est ce raisonnement sur le langage. Sur le langage et l'idée que il faut revenir à une certaine civilité du débat. Donc leurs propositions, ce sont toutes des propositions qui vont plutôt de ce côté-là. On s'est un peu moqué d'eux parce qu'on a dit ah mais les sardines à la fin ils disent que les ministres doivent pas être sur les réseaux sociaux, qu'ils doivent communiquer à travers les chaînes officielles de communication. Ils disent qu'il faut une civilité dans les discours, dans le langage, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, mais qu'est-ce qu'il propose fondamentalement, etc.
Donc, on insiste beaucoup sur la forme, que sur le fond.
Et ça, c'est quand même tout à fait, à mon avis, c'est très intéressant et c'est capital. Parce que ce qui s'est passé en Italie, et c'est en général vraiment l'instrument principal que les mouvements nationaux populistes utilisent pour passer, c'est une vraie dégradation du langage public, du débat, une vraie violence, même pas nécessairement physique mais verbale beaucoup et souvent. Et donc vraiment une logique du clash. Il y a des livres qui ont été écrits dessus, mais vraiment ça fait partie un peu partout de la stratégie de ces mouvements. On connaît Trump, etc. Et donc l'idée que de faire barrage à ça avec une tentative d'un côté justement de se voir face à face dans les places et dans l'espace public, mais aussi de restaurer ça dans la dimension virtuelle du débat, de la communication et tout ça, c'est très fort.
Marc Lazare, c'est vrai, ce qui est très frappant, c'est que Giuliano D'Ampoli le dit, c'est qu'au fond, ce qui est essentiel, c'est davantage la forme que le fond. Alors que dans un mouvement comme le mouvement 5 étoiles, au fond, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que c'était le contenu, c'était les propositions, et puis pour la forme, c'était peut-être pas l'essentiel. On a un mouvement qui est très différent, en réalité. Les Sardines et le mouvement 5 étoiles, avant qu'ils n'arrivent aux affaires, on a deux mouvements très différents.
Oui, c'est deux mouvements différents, même si, grâce à la mobilisation des Sardines, ou à cause de la mobilisation des Sardines, toute une partie de l'électorat du mouvement 5 étoiles en Émilie-Romagne a voté pour le gouverneur, enfin le président sortant du Parti démocrate. Mais j'ai un point, je suis d'accord et en désaccord sur un point avec Giuliano. Accord avec tout ce qu'il a décrit, moi je ne dirais pas que c'est la forme, parce que ce qu'il propose de réhabiliter, c'est le politique. Oui. C'est vraiment le politique. C'est-à-dire, par rapport au populiste qui effectivement insiste sur la vulgarité, qui développe des discours simplificateurs, qui ce qu'on dit dans ce livre avec Ivo Diamanti, qui propose une démocratie immédiate parce que tout se fait dans l'urgence. Eux, ils disent, comme vous l'avez rappelé, il faut être civil, vous l'avez rappelé. Les questions sont complexes. Donc, il faut voir toute la complexité. D'ailleurs, nous avons une constitution en Italie qui est une constitution démocratique, donc qui se réfère à la constitution. Et puis, il rajoute un autre élément, il faut prendre du temps. Tout ne peut pas se faire dans l'urgence. Donc, moi, je dirais pas que ça va plus que sur la forme. C'est véritablement une autre conception du politique.
Et c'est vraiment tout l'inverse du mouvement 5 étoiles. C'est remettre de l'idée, remettre de l'idéologie.
Alors l'idéologie, c'est là on arrive après aux limites du mouvement, parce que, comme l'a rappelé Giuliano, c'est un mouvement qui s'est mobilisé contre un parti d'opposition. C'est quand même assez neuf, même si en France on a eu parfois des mobilisations importantes à une certaine époque contre le Front National. Mais là, effectivement, c'est l'objectif fondamental, c'était de barrer la route, et c'est encore de barrer la route, parce qu'ils annoncent des mobilisations pour la région Toscane et pour les autres régions, si les Italiens votent au mois de juin. Maintenant, avec ce qui se passe, c'est même pas sûr, mais enfin, supposons qu'il y ait des élections régionales. Mais en même temps, c'est leur limite, parce que ils ont fait, par exemple, ils ont organisé des rencontres avec des ministres pour essayer d'avancer des propositions. Et ils sont divisés là-dessus, parce que quel type de propositions concrètes? Que dire sur le sud de l'Italie? Par exemple, ils ont dit qu'il faudrait faire un Erasmus des jeunes du sud pour leur permettre, pour ceux qui font des études, d'aller dans le nord de l'Italie, dans le reste de l'Europe. Bon, c'est d'accord, pourquoi pas? Mais ils ont des limites et ils se divisent. Est-ce qu'il faut accepter d'aller dans les talk shows à la télévision? Ils se divisent là-dessus. Ils affirment qu'il ne faut pas de leadership, et en même temps ils ont un leader qui progressivement s'est affirmé, tout en disant qu'il ne voulait pas être leader. Et qu'est-ce qu'il faut faire au final? Il faut se mobiliser, puis appeler à voter pour le Parti démocrate, dont ils se méfient beaucoup. Parce que en gros, c'est un peu comme à une époque, il y avait un grand journaliste italien qui s'appelait Indro Montanelli, qui, face au Parti communiste, disait « faut vous boucher le nez et aller voter démocrate chrétien ». Bon, ils sont un peu comme ça par rapport au Parti démocrate. Ce parti ne leur plaît pas. Mais comme ils ne veulent pas se formés en parti politique, en tout cas pour le moment, là, ils atteignent leurs limites.
Giuliano D'Ampoli, ça, effectivement, la question de l'articulation avec le Parti démocrate, c'est une question fondamentale. D'ailleurs, on pourrait penser que ça pourrait profiter au Parti démocrate. Au fond, ce que disent les gens qui descendent dans la rue de ce mouvement des Sardines, c'est pas totalement incompatible avec ce que propose le Parti démocrate.
Comme le rappelait Marc Lazare, ça a profité au Parti démocrate, par exemple en Émilie-Romagne. Mais c'est vrai que les contradictions de ce mouvement, après eux, ils aiment se définir comme phénomène, et pas comme mouvement, mais bon, les contradictions de ce phénomène font que probablement il va s'agir plutôt d'un mouvement, après les circonstances et même les mots d'ordre sont très différents, mais comme par exemple les indignados en Espagne ou d'autres mouvements de ce type qui n'ont pas produit un débouché politique immédiat, mais qui, disons, forment une sorte de bassin d'incubation, je ne sais pas si vous dites ça en français, pour des mouvements et éventuellement des mouvements politiques qui pourraient partir de là. C'est d'une façon complètement différente, c'est le cas des Gilets jaunes en France. C'est deux mouvements qui n'ont pas grand-chose à voir. Mais là aussi, je ne crois pas qu'il y aura une structuration partitique et politique des Sardines, parce que justement il y a trop de contradictions. Mais ça peut infuser, ça peut d'une certaine façon façon être quelque chose qui va être le terroir après, dans, peut-être pas immédiatement, mais peut-être dans quelques temps, de nouvelles formations politiques, de nouveaux leaders. Mmh. D'ailleurs, il est tout à fait possible justement que quelqu'un des personnages qui sont en train d'émerger des sardines soit un jour des candidats et des leaders politiques.
Mais pourquoi vous dites ça ? Pourquoi est-ce que le Parti démocrate ne pourrait pas justement récupérer toute cette énergie-là ?
Alors,
pourquoi nécessairement se transformer dans quelque chose d'autre ?
Il faut bien voir une chose. Le Parti démocrate est le seul parti du XXe siècle qui survit aujourd'hui en Italie. C'est une bureaucratie de parti, disons, de type social-démocrate, comme il y en avait, il continue en une certaine mesure d'en avoir d'autres en Europe. Donc, c'est une structure avec une certaine solidité. Aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs en Italie, c'est probablement la force de gouvernement responsable, disons, qui a contribué à garder l'Italie en Europe au cours des 20 dernières années. Mais, il trouve une très forte limite dans sa capacité d'intercepter de nouvelles énergies, en particulier des nouvelles générations qui sont habituées ou qui ont une conception de la politique qui est différente, plus fluide, même dans ses modalités. Et jusque-là, le Parti démocrate, même dans ses mutations successives, parce qu'il y a eu plusieurs saisons et plusieurs leaders, n'a jamais vraiment réussi à intercepter ça.
On était avec vous, Giuliano Dampoli, et vous, Marc Lazare, dans cette série consacrée au laboratoire politique de l'Europe. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Italie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Voilà, action en 2014 en plein cœur de Rome de Casa Pound. Casa Pound qui se faisait connaître en 2003 lors de l'occupation d'un immeuble toujours à Rome. Le groupe portait alors une critique du système locatif dans la capitale italienne tout en revendiquant une action sociale. Depuis, le groupe a évolué, il est devenu un parti politique, Casa Pound Italia, et il s'est même exporté au-delà de ses frontières. Bonjour Maddalena Gretel Camelli.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, enseignante à l'université de Bologne, une spécialiste du néofascisme, et vous aviez signé « Fasciste du troisième millénaire, un phénomène italien ». Parce que là, pour le coup, si tout à l'heure Marc Lazare nous disait qu'il y a eu pas mal de forces politiques qui, au fond, peut-être s'inspiraient, ou en tout cas avaient des liens avec, disons, l'idéologie fasciste, rares sont celles qui se revendiquaient directement. Or là, avec Casa Pound, on a quand même une revendication assez claire, assez affirmée, justement, de cet héritage fasciste. Alors, jusqu'où, justement, aidez-nous à comprendre, Maddalena Gretel Camelli, on parle de fascisme du troisième millénaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela, Casa Pound, Maddalena?
Oui, c'est sûr que Casa Pound représente une des premières mouvements et courants politiques qui revendique cet héritage de manière explicite. Mmh. Et ça, depuis, du coup, ça a commencé en 2003. La première fois qu'ils se sont autonomés fascistes du troisième millénaire, c'était en 2005. Et du coup, ça fait déjà 15 ans qu'en Italie, on entend cette identité qui peut s'afficher, s'auto-proclamer de manière ouverte. Et ça, ça a forcément eu des conséquences à niveau social, dans la manière où cette tradition peut être ouvertement revendiquée, et du coup les conséquences que ça peut avoir à niveau des banalisations aussi des contenus.
Est-ce que c'est seulement dans le discours ou ça va plus loin que ça? Parce que l'un des piliers du fascisme, c'était cette utilisation de groupes d'action paramilitaires qui semaient la violence, qu'on appelait le squadrisme. Le squadrisme qui a été évidemment l'un des outils absolument décisifs pour organiser l'affirmation du fascisme. Est-ce que ce squadrisme, alors évidemment pas, peut-être pas exactement dans les mêmes formes, mais est-ce qu'il existe aussi avec ce fascisme du troisième millénaire de Casa Pound?
Oui, et même là aussi revendiqué. C'est-à-dire que Casapound, ils ont non seulement revendiqué le labellage fascisme du troisième millénaire, mais aussi celui des squadrismes. Ils ont connu cette formule qui s'appelle squadrismo mediatico. Ça, en français, serait squadrisme médiatique, pour revendiquer l'usage d'une manière d'instrumentaliser, je dirais, la communication via les médias avec l'usage de la violence. Du coup, c'est pas, on ne peut pas les mettre du même niveau, disons, des chemises noires des années 20, mais c'est sûr qu'il y a à nouveau une référence historique directe qui marche à niveau de formation identitaire, des constructions du groupe, des mythologies quelque part fondatives d'une identité d'aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et de l'autre côté, à nouveau, une banalisation du mot, du nom, du mot squadrisme, qui, en Italie, ça désigne quand même une guerre civile, une guerre beaucoup de morts, de la violence, et l'utiliser au, 100 ans après, c'est pas, voilà, c'est à nouveau la première fois que ça arrive. Et c'est accompagné, bien entendu, évidemment, aussi de plusieurs actes de violence. Il y a plusieurs sites internet, dont une notamment s'appelle antifa.ecn, où on a une map et on peut regarder tous les épisodes de violence qui ont été commis, notamment par les membres des Casapound dans les dernières 15 années. Et il y en a beaucoup.
Vous parlez de cartes, justement, Maddalena Gretel-Camelli. Est-ce qu'on peut faire une carte, justement, de cette présence de Casapound? Est-ce qu'il y a une géographie italienne de Casapound et puis peut-être une sociologie aussi?
Alors, quand ils sont nés en 2003, ils sont nés spécifiquement dans la ville de Rome. 2008, ils ont commencé à avoir des sièges plus ou moins dans toutes les plus grandes villes italiennes, dans tous les pays, nord, sud, partout. Après, vu qu'ils sont devenus un parti politique, ça a changé un peu. Mais ça, c'était 2013. Du coup, 10 ans après leur naissance. C'est sûr que leur point plus, les lieux où ils sont plus forts, c'est Rome, où ils ont, et la région de Lazio. Mais, ils sont présents partout. On peut dire que, et surtout ce qui s'est passé récemment, c'est que, vous, qu'il y a un groupe qui s'auto-revendique un héritage et un mot et cette tradition, ça a été la banalisation publique de cette histoire culturelle, quelque part, de cet héritage culturel, qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir sur la presse, je pense, un épisode, un exemple assez fort, celui qui est arrivé l'année dernière au Salon du Livre de Turin, au mois de mai, où il y avait une nouvelle maison d'édition qui avait été acceptée à rentrer dans les salons du livre des Tourans, et c'était justement une maison d'édition associée au parti Casapound. Ça a fait scandale, évidemment, mais surtout la presse, au final, on a les déclarations du chef de la maison d'édition, qui d'ailleurs est un vieux militant des Casapound avec plusieurs procès à l'actif pour violence politique, et ses déclarations sont sur la une des presses en disant « Oui, je suis fasciste, l'antifascisme est le problème de ces pays. » Et à nouveau, c'est là où on voit que ça marche, cet outil du squadrisme médiatique, parce que après plusieurs fois où les militants des Casapound ont fait des historiques, ils sont rentrés violemment dans des sièges des radios et de la télévision publique italienne, à Rome, à Milan et dans plusieurs villes, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que les journalistes, ils reprennent les déclarations, entre guillemets, mais souvent sans les commenter même. Sans les commentaires, ouais.
Vous restez avec nous, je voudrais faire réagir peut-être nos deux invités, Marc Lazard, Giuliano D'Ampolis, sur ce phénomène Casapound, qui est d'ailleurs plus maintenant seulement un phénomène italien, parce qu'il y a des... Alors c'est qui n'ont pas le même groupe, mais il y a des groupes qui, au fond, sont affiliés, en réalité, à ce mouvement italien-là. Marc Lazard, peut-être commençons avec vous, et peut-être en particulier sur la question de son poids politique, dans le paysage politique, et ses liens avec Matteo Salvini.
Alors ça, je laisserai la spécialiste répondre. Ce que je sais du point de vue électoral, c'est qu'ils ont eu de très faibles résultats jusqu'ici, de très faibles résultats électoraux. Mais comme le racontait notre collègue, effectivement, ils ont une influence culturelle importante. Ils ont un impact culturel, y compris des thématiques qui passent. Peut-être plus qu'avec la Ligue de Salvini, dont je crois qu'ils se méfient un peu. C'est surtout peut-être avec Fratelli d'Italia qu'il faudrait voir les liens. Il ne faut jamais oublier que, effectivement, il y a, je crois, des zones de contact. Par rapport aux liens que vous évoquiez avec d'autres formations, en France, ils avaient des contacts avec le bloc identitaire, mais ces contacts, depuis quelque temps, semblent avoir été rompus parce qu'il y a des désaccords, justement, entre ces deux formations. Et si je peux me permettre d'ajouter un point, mais là encore, je parle sous le contrôle de la spécialiste, je crois que la force aussi de Casapan, c'est le travail local. Et je m'inspire ici d'un travail qui a été fait par d'autres collègues, Caterina Froio, qui vient d'être publié en anglais sur Casapan, qu'on présentait à Sciences Po la semaine dernière, qui était très intéressant parce qu'il montrait qu'il y avait des actions au niveau des quartiers, en quelque sorte, qui ne signifie pas un travail constant d'ailleurs, mais un travail qui est immédiatement mis en scène médiatiquement, qui fait que beaucoup de gens associent l'action de Casapan, une action sociale au niveau des populations les plus en souffrance, avec justement Casapan qui en fait arrive, fait une action, la rend visible médiatiquement et se retire. Mais il y a aussi cette présence sur le terrain.
Giuliano D'Ampoli.
Oui, cet effet de la mise en scène médiatique, à mon avis, est vraiment l'aspect crucial de l'opération Casa Pound. Et encore une fois, ils ne sont pas seuls. Ce qui m'avait frappé il y a quelques mois, c'est une campagne du mouvement identitaire allemand qui avait fait étaler des affiches, très provocatoires, mais que autour des sièges des grands journaux et des grands médias allemands, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour faire une campagne d'affichage national. Donc leur stratégie, c'était quoi? On va provoquer les médias, les médias traditionnels, avec un argument scandaleux qui sera clivant, et on aura une campagne de presse gigantesque, nationale, gratuite. Et ça avait très bien marché pour les identitaires allemands à cette occasion-là, et ça marche à tous les coups, ou presque à tous les coups, pour Casa Pound. C'est-à-dire que justement, ils font de la provoque, ils font de le squadrisme digital, et puis ils passent dans les médias, à la télé, dans les grands médias, et donc ils réussissent leur coup.
D'accordo con tutti, per oggi che giornata, mamma mia che giornata, non sto in piedi.
Merci infiniment à Madalena Gretel-Camelli qui était avec nous à l'instant par téléphone. Je rappellerai que vous venez de signer, vous avez signé, c'était il y a 2 ans, hein, Fasciste du troisième millénaire, un phénomène italien aux éditions Mimesis. Un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Marc Lazare, vous concernant notamment le plus récent Peuplocratie que vous avez signé avec Ilvo Diamanti chez Gallimard. Un grand merci Giuliano D'Ampoli, vous concernant, c'était Les Ingénieurs du Chaos l'année dernière chez La Thèse, je ne me trompe pas? Merci infiniment. On poursuivra évidemment notre série consacrée à ces laboratoires politiques de l'Europe demain, mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Et bonjour Florian.
Et les éditions Noir sur Blanc viennent, Brice, de rééditer Le Cheval Rouge de Eugenio Corti, à vos yeux l'un des romans les plus poignants jamais écrits sur la Seconde Guerre mondiale.
Oui, cet énorme roman épique qui couvre un millier de pages avait d'abord paru il y a 12 ans à l'âge d'homme dans la traduction de Françoise Lantieri. Et dans ma bibliothèque, ce pavé noir voisinait avec Vie et Destin de Vassili Grossman, autre pavé littéraire publié également par l'âge d'homme en 1980. Et il fallait de l'audace il y a quelques années encore pour publier ces textes devenus depuis des classiques de la littérature. C'est aussi qu'ils soulèvent des questions qu'on n'aime guère poser et qu'ils témoignent de faits historiques qu'on a longtemps préféré taire. Ce qui s'est passé sur le front de l'Est a été effroyable, au-delà des capacités de la littérature, dirait-on. Et pourtant, Grossman et Corti s'y sont attelés avec succès. tout rapproche le cheval rouge de Vie et Destin. Grossman a été le correspondant de guerre le plus populaire du RSS parce qu'il n'hésitait jamais à monter au front pour témoigner. Quant à Corti, il a combattu au sein du corps expéditionnaire italien en Union soviétique, aux côtés des armées allemandes, hongroises, roumaines et croates, engagées conjointement en Ukraine et en Russie contre l'armée rouge. Scandalisé par le comportement des Allemands envers leurs alliés, il a combattu ensuite dans les rangs des alliés anglo-saxons. Mais l'un et l'autre ont cherché dans l'écriture, bien plus qu'à rendre compte de ce qu'ils avaient vu ou à faire état des témoignages qu'ils avaient recueillis auprès des survivants de cette guerre d'extermination, à travers des récits épiques, étourdissants de vie, ils ont voulu saisir le sens d'événements effroyables. Et cela les a conduits à une méditation d'une grande profondeur sur la nature des deux régimes dont la lutte à mort avait provoqué cet affrontement apocalyptique, nazisme et communisme. Comme Guerre et Paix, auxquels ils empruntent l'un et l'autre certains modes d'exposition, ce sont deux grands romans philosophiques en même temps que des mines d'informations sur les réalités historiques de cette guerre totale. La grande question posée par le catholique Eugenio Corti est « Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal ?» Grossman, lui, ne croit pas à l'intervention de forces métaphysiques dans l'histoire humaine, mais il est attentif aux dimensions spirituelles du combat entre les deux régimes, celui d'Hitler et celui de Staline, et obsédé par leur ressemblance. Dans le fameux dialogue de Vie et Destin entre le vieux bolchevique Mostovskoï et l'Obersturmbannführer SS Lys, ce dernier lance à son prisonnier russe « Quand nous ne regardons pas seulement un visage haï, nous nous regardons dans un miroir. Là réside la tragédie de notre époque. Se peut-il que vous ne reconnaissiez pas, que vous ne vous reconnaissiez pas en nous ?» Et de son côté, Eugenio Corti incrimine le darwinisme social et le machiavélisme de masse qui lui semble la marque distinctive des régimes totalitaires. Car ces idéologies sont fondées sur de pseudo-sciences qui croient avoir découvert une race supérieure dans un cas, une classe rédemptrice dans l'autre, et pour hâter la sélection inévitable de ces groupes privilégiés par leurs théories, il est promu de supprimer tout ce qui leur fait obstacle, je cite. Les divers groupes humains susceptibles d'accéder à la suprématie, d'abord l'État pour les fascistes, puis la classe pour les communistes, puis la race pour les nazis, avaient théorisé chacun sa propre hégémonie avec l'asservissement concomitant de tous les autres groupes, et ce, d'une manière d'autant plus radicale que le sens moral chrétien s'était atténué.
Et Brice, l'un et l'autre s'interrogent sur ce qui a pu faire régresser l'humanité vers une barbarie dont elle avait mis si longtemps à s'affranchir.
Je cite Vie et Destin. Sofia Osipovna s'étonnait. Il avait suffi de quelques jours pour parcourir en sens inverse le chemin qui mène de la bête, sale et misérable, privée de nom et de liberté, jusqu'à l'homme. Et pourtant, le chemin vers l'homme avait duré des millions d'années. Et je cite maintenant Corti, « Il nous faut comprendre le pourquoi de cette incroyable régression du monde vers la barbarie, vers l'âge des cavernes, et s'il est possible de l'arrêter ou non. » Alors dans Le Cheval Rouge, on suit l'odyssée d'un groupe de jeunes Italiens originaires d'un même village de Lombardie. Certains s'engagent dans les unités combattant l'armée rouge aux côtés des Allemands. Bien peu survivront à l'affreuse débandade d'un corps d'armée italien lancé avec vantardise et amateurisme par le régime fasciste dans des combats pour lesquels ils n'avaient pas été préparés et pour lesquels il manquait des équipements les plus nécessaires. On obtient des révélations sur le sort atroce des prisonniers de guerre survivants aux marches du Davaï et aux transports en wagons de marchandises que la famine poussait dans les camps à des actes de cannibalisme. On voit aussi des tortionnaires, des policiers tortionnaires fascistes passer in extremis dans les rangs de la résistance où ils poursuivront bien entendu leurs méfaits. Mais on suit aussi des combattants italiens engagés contre les Allemands pour racheter l'honneur de leur pays. On assiste aussi à la reconstruction et aux luttes politiques italiennes d'après-guerre, vues du côté de la démocratie chrétienne, ce qui n'est pas si fréquent en littérature. Et enfin, à la naissance de la vocation d'écrivain de l'auteur, Eugenio Corti, qui a prêté ses traits et une partie de son odyssée à un personnage de jeune intellectuel catholique. Alors, lisez Le Cheval Rouge, croyez-moi, vous n'en sortirez pas indemne.
Merci beaucoup, Brice Couturier. Le Cheval Rouge, donc, dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table. À demain, Brice.